allez vous planter les choux à la mode de chez nous.
Vous êtes bien sur Dicotylédonde, l'émission qui parle de plantes et de nos liens au végétal.
Yeah.
Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de choux pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Dit cotylédon. On entend le mot de et cotylédon. Donc ce sont des plantes qui font des graines avec deux cotylédons.
Dit cotylédon, une émission d'ethnobotanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce que on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4. Bonjour et bienvenue, c'est la deuxième émission des Dicotylédondes, un programme radio tout frais sur Radio Galère. Qui a envie de parler d'ethnobotanique, de se pencher sur nos relations au végétal, de nos paysages à nos médecines, en passant par nos artisanats et nos cuisines. Aujourd'hui, on s'intéresse aux manières d'introduire l'ethnobotanique dans un projet culturel. On fait parfois de l'ethnobotanique sans le savoir, et pourtant, elle peut être un terreau fertile de mise en lien et de création. Alors, comment faire de l'ethnobotanique collective? C'est une des questions du jour, et pour en parler, on invite Florine Cruel. Florine, bonjour.
Salut.
Florine, t'es formée, comme nous, à l'ethnobotanique, mais tu viens, comme nous, des sciences sociales et des projets culturels. Tu fais notamment partie de l'association Terrain Vague, un collectif pluridisciplinaire qui conçoit des installations, de la microarchitecture, du mobilier et des ateliers créatifs dans différentes structures sociales et dans l'espace public.
On avait envie de te demander d'abord comment tu es arrivée à l'ethnobotanique.
Je pense qu'il y a eu d'abord peut-être une grande attirance pour le monde végétal, peut-être parce que j'en étais un peu éloignée du fait que j'ai grandi dans un milieu très urbain, dans une grande ville. Suite à ça, j'ai eu l'occasion d'avoir de plus en plus d'expériences dans des milieux naturels et proches de la nature, entre guillemets. Il y a eu des lectures il y a quelques années, la découverte de la pensée de Descola, qui met en avant que l'unique manière de, il n'y a pas qu'une unique manière de voir les choses sur une dualité nature-culture. Il y a eu Baptiste Morisot sur les relations interespèces, qui est pas forcément liée que au végétal, mais plutôt au monde animal. Mais ça a été un peu des éléments déclencheurs. Et suite à ça, moi, j'avais envie d'aller plus loin, en fait, d'avoir un cadre apprenant, parce que c'est quand même la botanique, c'est quand même quelque chose qui est assez technique, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps. Et donc, j'en suis arrivée à m'inscrire au DU d'ethnobotanique appliqué à l'Université de Lille. Et ça a été pour moi le cadre idéal pour apprendre, pour identifier et pour me plonger vraiment dans cette grande discipline qui est quand même assez vaseuse d'une certaine manière. On a un peu du mal à la comprendre finalement.
Et aujourd'hui, comment tu arrives à lui faire une place dans ta pratique professionnelle ?
Personnellement, moi, du fait d'avoir appris beaucoup de choses, d'avoir appris à reconnaître les plantes, à les nommer, à savoir quand est-ce qu'elles fleurissent, quelles sont leurs vertus, etc. J'ai pris l'habitude de faire un peu de cueillette et de faire de la tisane. Ça, c'est vraiment d'un point de vue purement personnel. Et ensuite, dans le cadre justement de Terrain Vague, où on fait quand même principalement de la construction, mais on essaye aussi de travailler sur le récit dans des cadres plus artistiques à l'occasion de résidence. Et j'ai eu l'envie, on a eu l'envie tous ensemble d'introduire un peu nos questionnements sur le végétal à travers certains projets. Et on a eu la chance, dans le cadre de quelques résidences, de pouvoir expérimenter autour des plantes, notamment sur le, par rapport au projet dont je vais parler juste après.
Bah, peut-être qu'on peut te lancer tout de suite dessus, parce que effectivement, on trouvait intéressant de questionner comment est-ce qu'on... Parce que tu parlais de d'Escola et de nature, culture, comment est-ce qu'on arrive à mettre en lien les deux dans un cadre de montage de projets culturels, ou de comment on arrive à faire rentrer la nature dans ce cadre-là et de faire ensemble aussi.
Ouais, carrément. Après, spécifiquement pour Terrain Vague, c'est pas chose aisée, parce que c'est un cadre de projet qui se finance différemment, qui est moins financé, qui est pas notre activité principale. Mais avec un peu de volonté et d'énergie, on y arrive. Et du coup, il y a eu ce projet, donc La Vandula Folia, qui est le projet de la création d'une édition centrée sur la lavande et les pratiques reliées à la lavande autour de la ferme du Faye, qui se situe dans les Hautes-Alpes. Et ce projet, il est né... Il a eu lieu pendant l'été 2024, et son origine remonte à l'été 2023, où on a été pour la première fois en résidence à la ferme du Faye. Et d'un point de vue de montage de projet, en fait, ça s'est fait autour de l'appel à projet été culturel, qui est une résidence de création-transmission, et l'idée et de mettre en lien une pratique artistique dans le cadre d'une structure jeunesse ou sociale. Et à ce moment-là, on a un peu digué la structure dans laquelle on aimerait bien faire une résidence, et on est tombé un peu par hasard sur la ferme du Faye, qui est un lieu en fait porté par l'association Village des Jeunes. C'est une ferme qui est perchée dans les hauteurs de la montagne à 1200 mètres d'altitude, et qui accueille des jeunes en chantiers internationaux et des jeunes adhérents à des structures sociales qui viennent en séjour, et qui retape progressivement la ferme tombée en ruine. Il y a tout un tas d'autres activités qui s'y passent. Elle est aussi gérée par des personnes au quotidien et aidées par des personnes en insertion. Et donc, du coup, on s'est retrouvés pour la première fois là-bas en 2023, où on a été dans une résidence très, très expérimentale, à vouloir un peu expérimenter différentes manières de se mettre en lien artistiquement avec les paysages et le végétal. Et donc, à ce moment-là, on était 7. Et on a chacun et chacune expérimenté de différentes manières, en faisant des tentures avec de l'encre végétale, en faisant des structures avec du bois de frêne, en essayant d'extraire des pigments, des roches qu'on trouvait sur place. Enfin, ça a été un peu une grosse expérimentation qui a donné lieu à une fresque collective de toutes ces recherches. Et donc on a été assez subjugués par le lieu, et qui nous donnait l'envie vraiment d'aller plus loin. À ce moment-là, on a aussi remarqué, parce que c'est quelque chose qui est très présent à la ferme, que du coup, il y a beaucoup de bosquets de lavande autour de la ferme, et un énorme alambic qui a été utilisé pendant plusieurs années dans le cadre de chantiers de cueillette collective avec des jeunes. Et donc, nous, au moment où on y était, cet alambic ne fonctionnait plus, et on a vraiment un peu fantasmé autour de ces gros chantiers de cueillette collective de lavande. Et on a décidé, après cette première résidence, de remonter un projet, et cette fois-ci en s'intéressant vraiment à la lavande. Avec pour objectif de production artistique de créer un fanzine. Et l'idée, c'était de vraiment récolter le récit de personnes liées au territoire et à la pratique de la lavande. Donc ça a été la première étape de la résidence, donc d'aller à la rencontre de personnes qui avaient des pratiques, des savoirs, qui avaient un lien. Donc on a rencontré 4 personnes qui ont vraiment des profils très différents. auxquelles on a posé des questions. Et donc on a enregistré, retranscrit leurs paroles. Et on a organisé toutes ces paroles dans le cadre de cette édition. Le projet aussi, l'idée de ce projet en fait de fanzine, c'était de vouloir laisser une trace. Enfin, en fait, le récit du fanzine se construit. C'est comme un petit guide à l'usage de la personne qui voudrait réactiver la cueillette de lavande à la ferme du Failly. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a envisagé. Donc c'est finalement assez simple et il est composé quasiment uniquement que des citations notées telles quelles, retranscrites telles quelles des personnes qu'on a interrogées et qui est organisé sur différentes thématiques qui va de comment reconnaître la lavande, comment l'accueillir, comment l'utiliser. Et qui pourrait être un peu le guide de base à un groupe de jeunes ou à un accompagnant qui pourrait dire « Allez, on reprend les chantiers de cueillette collective ». Et donc, dans le cadre de ce projet, qui est un projet de création-transmission, on a aussi donc mené des ateliers avec des jeunes qui étaient en séjour sur place. L'idée de ces ateliers, c'était déjà de pouvoir un peu leur montrer dans le cadre de balades et de cueillettes, tous les savoirs qu'on avait appris grâce aux personnes qu'on avait interrogées. Donc ça allait de comment nouer son drap de cueillette, montrer un peu les éléments liés à la cueillette traditionnelle dans les Hautes-Alpes, le bourra, comment utiliser la faucille. Et on avait envie de les faire expérimenter, de les faire un peu créer. L'idée, c'était que à travers cette cueillette, il la documente et qu'il crée un roman photo. Et là, ce qu'on avait envie, c'était vraiment que, à travers la plante et les connaissances qu'on a pu leur apporter, qu'ils soient un peu plus dans un lien, qu'ils entrent dans une relation, qu'ils puissent documenter et partir après dans des choses très imaginaires. Donc du coup, pendant cette cueillette, cette balade démonstrative, on va dire, l'idée c'était qu'ils prennent des photos et qu'ils racontent des histoires dans le cadre de ce roman photo autour de la lavande. Donc ça fait partie aussi du fanzine. Enfin, c'est quelque chose qu'on a mis aussi en page dans le fanzine.
Merci pour cette large présentation du projet. Est-ce que tu peux juste revenir sur les quatre personnes que vous avez rencontrées, juste nous dire brièvement qui elles étaient, et puis après peut-être on écoutera quelques extraits pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet.
Carrément. Du coup, on a interrogé quatre personnes. Donc il y avait Fabien, qui est distillateur et qui a repris la ferme familiale. Il y avait Leïla, qui doit avoir une trentaine d'années et qui est productrice de PPAM, qui s'est installée dans le 05 il y a peu de temps, et donc du coup qui cueille des plantes qu'elle a cultivées dans son jardin et aussi issues de cueillettes sauvages qu'elle transforme ensuite principalement en tisane et en cosmétiques. Il y avait Christian, qui est un fin connaisseur du territoire avec beaucoup d'histoires à raconter, et qui avait chez lui, dans sa grange, un écomusée rempli d'objets liés à l'artisanat et aux pratiques un peu historiques du territoire, qui avait énormément de choses à dire. Et il y avait Bruno, qui est un habitant du Seix. Le Seix, c'est la commune dans laquelle se situe la ferme du Failly, et qui avait beaucoup de nostalgie et sur ses anciennes pratiques de la lavande, qui était hyper intéressé par toutes les histoires liées à son village. Et dans le village du Seix, il y avait aussi un alambic, et ça a eu été une pratique assez partagée par tout un tas de personnes du village. Et donc c'est présent vraiment dans les mémoires collectives de beaucoup de personnes dans les lieux où on a été.
Du coup, je pense que c'est Christian qu'on va écouter maintenant.
Oui, alors, dans la montagne, vous avez du bois, puis vous avez des barres de rochers.
Oui.
En dessus des barres de rochers, il y a des genêts qui sont jaune en ce moment.
Ouais.
Oui, avec un peu de bois.
Ouais.
Et bien là, ça s'appelle la baillassière. La baillassière, c'est là où poussent les...
Lavande sauvage.
Les baillasses.
Les baillasses. Ah, c'est les bosquets.
Non, les baillasses, c'est le mot de lavande. En Provence, on dit pas, ils disent pas. Lavande, c'est les baillasses. Ils vont aux baillasses.
Ok.
Aux lavandes.
Ok.
Donc là-haut, c'est la sauvage. Il y en avait, tout le monde voit. Et même pour vous dire, le grand-père d'un copain à moi, il allait ramasser les baillasses là-haut. Et dans des bourras.
Ouais.
Et quand les bourras, vous savez ce que c'est que les bourras? Alors,
c'est les draps.
Les draps avec quatre
lanières
au bout pour fermer. Il fermait ses bourras. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de bois dessous, parce que le bois était coupé pour chauffer. Voilà. Il n'y avait pas de bois dessous les barres. Et il envoyait ses bourras de là-haut. Et il roulait jusqu'en bas. Dessous le bois, il y a un chemin. Après, il allait récupérer. Voilà.
Du coup, on vient d'entendre Christian.
C'est ça, ouais.
Et donc, c'est un extrait des entretiens que vous avez menés pendant cette résidence.
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce que, du coup, tu peux nous expliciter un peu plus de quoi vous parlez en particulier ?
Eh bien, du coup, on a été rencontrer Christian avec l'envie de parler de la lavande. On a parlé de beaucoup de choses. Et finalement, assez peu de la lavande, puisqu'il avait beaucoup de choses à dire. Il nous a beaucoup parlé, notamment de... On a eu des grandes discussions sur le vocabulaire, le provençal, et de son envie de pas que de faire en sorte que ça se perde pas. Du coup, sur cette discussion précisément, en fait, on est du coup à ce moment-là dehors dans sa ferme, et en face de nous il y a une colline. Et donc il nous raconte que dans le temps il y a un ami à lui dont les grands-parents, je crois, il me semble, quand ils allaient à la cueillette de la lavande, et ben ils remplissaient donc les bourras, qui sont des draps carrés qu'on mettait pendant la cueillette par terre, et donc on venait mettre les épis de lavande, et une fois un gros tas effectué, on venait refermer les quatre coins pour faire des grosses boules et transporter plus facilement la lavande ensuite à la ferme, de la montagne à la ferme. Et donc il raconte que une des techniques qui était faite à cet endroit-là, c'était de, comme on était sur la montagne, c'était plutôt de fermer les bourras et ensuite de balancer le bourras qu'on prend pas très bien où, mais un peu plus bas, pour que ça aille plus vite probablement. Et c'est vrai que cette image, elle nous a plu, même si elle reste assez énigmatique, mais c'est une des premières choses qu'il nous a dit. Et on a trouvé l'image assez belle. Peut-être on l'a interprétée de manière un peu folklorique, mais en tous les cas, on a trouvé que c'était très parlant, en fait, parce que le paysage dans lequel on était est fait de montagnes, et que en fait, imaginez ces personnes qui cueillent la lavande dans la montagne en voulant se faciliter la tâche de vouloir lancer le paquet de lavande pour qu'il arrive plus facilement à destination. On a trouvé que cette image, elle était aussi très parlante et assez touchante.
Oui, mais carrément, et ça nous parle aussi de une forme de dureté aussi, peut-être, du monde agricole de cette époque-là, qui était pas forcément mécanisé ou pas autant, et donc du coup de la difficulté d'acheminer les différentes contenus agricoles, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est pas grave, jusque en bas, quoi, pour les transformer, etc., quoi.
Moi, j'aime bien dans cet extrait et aussi dans ce que tu racontes, parce que on imagine le geste de balancer des énormes boules dans un autre, plus loin dans un autre extrait. Il dit que ça fait 40 kilos. Et puis en même temps, il y a aussi ce langage, ces nouveaux mots. Enfin, du coup, je trouve qu'à la fois, en ouvrant cette petite porte de l'ethnobotanique, on fait forcément aussi de la linguistique, et puis que l'idée de transformer tous ces artisanats-là et tous ces savoir-faire en quelque chose d'artistique, je trouve qu'il y a le geste, on peut imaginer de la danse, vous avez fait des photos, vous avez fait de l'impression, vous avez fait On peut imaginer du théâtre aussi. Je trouve qu'il y a plein de différentes manières de transformer artistiquement aussi ces savoirs-là dans une optique de transmission, avec effectivement, comme tu disais, peut-être cet écueil à éviter de la folklorisation.
On peut peut-être écouter le deuxième extrait qui a plus attrait au pays, enfin à la formation du paysage.
Et puis tu nous diras qui c'est qui parle.
Ouais, ça marche.
Regardez pas pareil qu'avant. Non, je vous dis, quand il y avait dans la vente, il y avait les moutons, ça allait bien. Après, bon, j'en ai beaucoup, moi, après. Mais je gardais pas pareil qu'avant. Parce que les brebis, c'est serre, là, en face. Même qu'il n'y a pas d'herbe, elles mangent. On ne sait pas ce qu'elles y font, mais elles aiment trop. Alors, moi, quand même, je restais là beaucoup. Tandis que moi, je gardais le matin, mais j'étais toujours pressé, puisque j'avais des chats en fer aussi. Donc, je partais à 6 h, je rentrais à 9 h. Donc elles n'étaient pas là. Bon. Donc c'est pas mes brebis, même que j'en avais presque 300, qui allaient abîmer la lavande. Je regardais bien, j'ai jamais vu une brebis manger une lavande.
Oui.
Maintenant mon fermier, c'est que des vaches, lui c'est une vache. Est-ce que voilà. En plus, il était venu le mode quand tout le monde a commencé à planter des maisons, à construire des maisons par-ci, par-là, ils allaient piquer des lavandes là-bas, un peu aussi. Voilà. Même mon beau-père, père de ma femme, quand il allait voir son frère à Montbéliard, il partait toujours avec la lavande. Je dis, elle est mieux là que là-haut, chez votre frère.
Il fallait tendre l'oreille, du coup, pour écouter...
Oui. Et c'est Christian,
c'est
toujours
Christian.
Christian,
ouais. Ah oui. Mmh. Et j'aime bien aussi dans cet extrait... Comment on en arrive aussi à parler des usages de la lavande et on imagine que vous avez... Enfin, il y en a énormément, mais là, on parle de l'usage décoratif quand les gens ont commencé à faire pousser des maisons et à vouloir décorer leur jardin. Et ça, c'est évidemment pas un usage traditionnel de la lavande, j'imagine. Mais peut-être, est-ce que tu peux nous dire un mot sur tous les usages que vous avez, traditionnels ou non, que vous avez... explorer en allant mener ces entretiens.
Principalement, nous dans l'enquête nous a mené plutôt sur la lavande dans sa place liée à une activité économique assez forte dans les Hautes-Alpes, qui est un territoire à l'origine assez pauvre et qui a été une opportunité. D'avoir des revenus pour beaucoup de personnes du pays à une certaine époque. Et c'est pour ça que la lavande a une place aussi forte en fait dans le territoire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que il y a un peu le passage de la lavande sauvage à l'aspect beaucoup plus décoratif et au champ de lavandin où en fait nous ce qu'on a observé, entendu par rapport aux entretiens, c'est que dans les Hautes-Alpes, historiquement, la lavande a commencé à être cueillie en sauvage. Donc au départ par des familles et ensuite sur une activité un peu plus poussée avec des fermes, des gros alambics, etc. Et ça a créé quand même un paysage. Mais le glissement, je pense, dont il parle Christian, c'est plutôt cette image ultra marketing qu'on a sans doute des grands champs de lavande symétriques, enfin de lavandin symétriques, qui sont plutôt situés à Valensole et qui arrivent là beaucoup plus tardivement, où on a un passage, déjà un changement d'espèce parce que le lavandin c'est un hybride, donc du coup il aura toujours la même couleur, il n'y aura aucune variation, là où chaque bosquet de lavande est différent. Et en fait, on le voit que ça vire au bleu, au violet, les tailles sont différentes, les odeurs, etc. Et aujourd'hui, c'est un peu l'image qu'on vend de la Provence, c'est ces grandes lignes symétriques de champs de lavandin. Et ça, effectivement, c'est une construction paysagère et c'est un élément du décor et c'est quelque chose qu'on vend aussi beaucoup... aux touristes, il y a beaucoup de gens qui viennent pour voir ça. Après, c'est beaucoup revenu dans les entretiens qu'on a fait une nostalgie des paysages, de c'était bleu de lavande. À notre endroit, on peut pas distinguer si effectivement, ben, le bleu de lavande, il s'agit vrai, parce que c'est un fait quand même qu'une colline pleine de baillasse, elle est bleue en fait de loin et ça fait un bleu de lavande. Mais on n'a pas été assez loin pour savoir, pour vraiment distinguer cette, enfin dans le récit en tout cas, leur considération, si eux-mêmes ils avaient un glissement par rapport à ce qu'ils disaient. Mais effectivement, il y a un usage ultra décoratif et très erroné. Même de l'espèce de base qui est la lavande vraie et qui est totalement différente du lavandin.
Comment les personnes que tu as rencontrées, parce que du coup on a beaucoup entendu Christian, mais enfin, est-ce que les autres personnes que vous avez pu rencontrer avaient d'autres usages de la lavande, passés ou présents, enfin, quel lien ils entretenaient avec le végétal lavande?
Après, pour nous, le lien, il est déjà de base dans le fait qu'ils travaillent la plante et que c'est leur ressource économique. C'est ça, pour nous, c'est le lien pour tous et toutes, hormis Christian, dont lui, c'était pas la profession. Après, en usage plus populaire, on va dire, il y a Fabien qui nous a parlé de certaines choses. Il nous racontait que quand il était enfant... Et quand ses parents, c'était le moment de la cueillette en plein été, pour passer le temps avec ses cousins, ils faisaient des fuseaux de lavande et que c'était un truc qu'ils faisaient beaucoup. Et donc du coup, les fuseaux, c'est des petits bouquets de lavande qu'on vient ensuite mettre dans le linge pour parfumer le linge. Il nous a parlé aussi de l'utilisation de la lavande pour calmer les piqûres de moustiques. Ensuite, on a appris de Leïla, qui est productrice de PPAM, donc qui est vraiment très renseignée sur le sujet. Elle utilise la lavande plutôt pour ses propriétés calmantes pour la peau, mais elle nous a pas donné d'usage plus ancien que ce qu'elle transforme en fait aujourd'hui dans sa pratique économique de vendre les cosmétiques.
Et est-ce que ces personnes-là vous ont évoqué aussi des usages passés qui leur auraient été transmis par d'autres personnes, qu'elles soient des proches familiales ou non, c'est juste pour voir un peu comment se transmet un peu la mémoire des usages, enfin s'il y en a une et comment quoi.
Je pense que le fuseau, c'est quelque chose qui a été un peu transmis, qui est finalement assez commun, parce que c'est un objet qu'on retrouve aussi presque en vente maintenant dans des boutiques pour touristes, etc. Mais c'est pas uniquement une création pour touristes. De ce que j'en sais, la lavande, c'est pas nécessairement une plante qui a énormément été utilisée en médicinal. Historiquement, quoi, dans un usage populaire, elle a beaucoup été utilisée parce qu'elle était liée à cet essor de l'industrie de la parfumerie à Grasse et qu'elle a été utilisée pour ses propriétés odorantes plutôt. Aujourd'hui, elle est mise sur le marché en huile essentielle parce qu'il y a un nouvel attrait pour ça. Mais ensuite, en termes médicinal et sur des usages très anciens, on n'a pas eu nécessairement, on n'a pas eu de récits à ces endroits-là, bien qu'on les ait demandés. Et le propos et le lien vraiment où on a été le chercher, il repose vraiment sur la place de la lavande dans cette économie en fait du pays, plus que sur les usages médicinaux et populaires.
Et est-ce que en un mot, tu peux nous dire comment a été reçu le projet? Parce que du coup, il y avait à la fois des personnes du territoire qu'on a entendu là qui étaient impliquées, mais aussi des jeunes, à la fois internationaux, à la fois des jeunes membres de structures sociales. Tout ce petit monde-là, comment il a reçu ce projet? Et est-ce qu'il y a eu des endroits de transmission justement
En fait, il y a eu un très beau moment à la fin du projet où c'était un peu le fantasme qu'on avait, mais qui était de refaire marcher l'alambic du Faille, mais en fait, c'est vraiment un projet en soi. Donc on avait un peu oublié ça. Et finalement, Leïla nous a proposé de monter son alambic et de faire une distillation à la fin de la résidence. Et à ce moment-là, on a invité tout le monde, toutes les personnes interrogées, les jeunes, pour voir le processus de distillation. Et là, c'était un trop beau moment parce qu'on avait Leïla qui a une trentaine d'années, qui cultive de la lavande de manière hyper différente que Fabien ou même que ce que Christian a pu connaître de ses amis ou de ses grands-parents. Et puis les jeunes qui étaient là aussi. Et à ce moment-là, il y a Leïla et notamment Christian ont eu pas mal de discussions. Et on a eu pour retour notamment de Leïla qui nous disait que c'était hyper précieux en fait pour elle de pouvoir échanger avec un ancien du pays aussi et que ça la nourrissait énormément. Et ensuite les jeunes, ils étaient assez fascinés en fait aussi par la distillation. La distillation c'est aussi quelque chose qui est assez fascinant. Ils se sont bien pris au jeu aussi de la cueillette et ouais, je pense que ça a été un des beaux moments de partage collectif et c'était un peu ça l'idée en fait, c'était de se réunir à nouveau et pas pour refaire une économie de la lavande mais juste à un moment donné pour porter une attention à cet endroit-là et pour que la connaissance elle puisse se transmettre aussi.
Mission accomplie du coup dans ce projet de création transmission. Il reste encore plein de choses à explorer et à inventer, mais on va s'arrêter là.
Il y a quand même ce petit objet qui reste que tu nous as présenté au départ, qui est ce petit fanzine que vous avez fait, qui est une très belle édition. Je ne sais pas si on peut le trouver quelque part encore ou.
Alors malheureusement non, en fait les éditions qu'on fait pour le moment, peut-être qu'un jour ça arrivera, on les vend pas, mais et puis il a été fait de manière très artisanale, en fait on l'a imprimé sur une petite imprimante laser, on a coupé, assemblé, agrafé tout sur place, on a pu en faire que 15. L'idée c'est d'en réimprimer ici à Marseille, il faut qu'on le fasse, on manque un peu de temps. Et peut-être qu'il sera diffusé un jour. Il y a des photos sur le site internet de Terrain Vague. Et peut-être si le jour où on aura imprimé et qu'on les diffuse, on donnera l'info sur notre Instagram. Mais malheureusement, il n'est pas encore disponible. Voilà.
On relaiera aussi tout ça sur la page de Dicotylédon. Merci Florine d'être venue.
Merci pour l'invitation. Merci
beaucoup. Partager ton expérience et celle de Terrain Vague autour de l'ethnobotanisation de nos pratiques culturelles. Il y a un autre collectif à Marseille qui se penche sur ces questions, c'est celui des Bigoudes, que tu connais et que vous, auditeurs, auditrices, connaissez peut-être. Les Bigoudes, ce sont des cueilleuses et des cuistots, cuistotes, qui aiment bien emmener les gens à la découverte des plantes sauvages et rudérales, à leur goût et à leurs usages. Il faut dire que la cuisine, ça s'y prête bien, donc on va les écouter, nous détailler le menu de leur dernier festin. C'était en janvier, vous allez voir que ça donne l'eau à la bouche. Et guettez les dates du prochain, ça sera sûrement fin mars.
L'heure a filé encore une fois trop vite, alors on vous laisse là en compagnie de Camille, Caroline, Léo et Pierrick. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, le 4e mardi du mois de mars. N'oubliez pas que Dicotylédonde est ouverte à toutes les propositions et nous restons joignables à cette adresse dicoty@ethique.com, dicoty@ethique.com. À bientôt.
Entrée, retournée d'oignons au bec de lentisque, glaçage yakitori, poudrée fromagère et j'ajouterai même petite poudre de patate douce violette. Du coup, ça fait un petit cul violet à l'oignon.
Dans les commentaires, on peut parler du lentisque.
Lentisque, c'est un petit buisson qu'on va trouver pas mal tout près des calanques. En gros, ça va faire une gamme de couleurs entre le rose et le noir. C'est des toutes petites baies qui pourrait ressembler au baies de genévrier. Feuillage super découpé, je dirais c'est plutôt grandeur quoi.
Ouais, bah un lentisque que tu coupes pas, ouais, ça peut faire 1m60 quand même de haut.
Ah ouais, mais souvent ils sont tout rares ici, non?
Ouais, mais parce qu'ici ils poussent dans des conditions vraiment dures.
Ah, mais ils ont des feuilles assez dures là, et quand tu la casses, c'est ça. Odorant.
Exactement.
En fait, il y a plein d'usages avec ce lentisque, mais ici, on n'en mange absolument pas. Okay. Et avant, quand on livrait les restaurants, personne ne voulait absolument de ce lentisque, alors que franchement, bah, tu l'as vu toi-même, hein, mais l'odeur, elle est sensationnelle. Et là, du coup, en fait, on en a broyé pour mettre dans une purée de carottes qui va être glissée à l'intérieur de cet oignon, qui est roulé sur lui-même, pour après qui est nappé avec une petite panure par-dessus, et ce fameux cul rose.
Ça, c'est pour le premier. Alors, le plat. Après, les plats, parce qu'il y a, du coup, il y a quatre plats qui arrivent en même temps.
On fait un par un ?
Ouais.
Pour pas perdre la tête.
Allez, le premier, c'est gratin dauphinois, mais sans ail, au beurre noisette, gel d'agrumes, lacto-fermenté et poudre d'eucalyptus.
À chaque festin, à chaque fois, les plats, ils arrivent tous en même temps. Et c'est sur une espèce de puzzle de céramique qu'on a créé, qui en fait permet aux gens, même s'ils sont tout seuls ou deux ou trois, de manger ensemble. En fait, l'idée, c'est quand même d'essayer de regrouper les gens ou de les mélanger. Et c'est toute une série de petits plats. Et pour revenir sur ce gratin dauphinois, ça fait vraiment comme un petit millefeuille. Et par-dessus, nous, on va venir mettre cette poudre d'eucalyptus. Quand on dit poudre d'eucalyptus, en fait, c'est des feuillages qu'on a ramassés. Donc, on va vraiment retrouver l'odeur de l'eucalyptus quand il est froissé. On les ramasse, on les fait sécher et ensuite, on les broie. Et ça fait une poudre qui est bleue, tirant vers le vert.
Ouais.
C'est hyper fort. Donc, c'est pas mal même de la couper. Je pense que vous vous souvenez de cette expérience-là. Bon, on pourrait la couper avec plein de choses. Mais hier, on l'a coupée avec quoi ? Avec du coup de la panure et du sucre et un petit peu de sel.
Deuxième plat. Alors, hyper dur à prononcer. On ne sait pas si on dit ce qu'il faut. Xiao Long Bao. Donc ça, c'est un ravioli. Farci avec pommes et céleri rave. Et dessus, puis de feuilles de citron. Tout à fait.
Et bien là, c'est le même principe. On est allé cueillir des feuilles de citronnier, tout type de feuilles de citronnier, à savoir le citron caviar, parce qu'on s'est dit c'est très chic. Du coup, on a ramassé les petites feuilles. Citron caviar, c'est très piquant. Okay. Donc déjà, ramasser, c'est une galère. Et ensuite, quand on a du coup fait sécher ces feuilles-là, puis mixer, en fait, c'est devenu un énorme barbe, finalement, parce que c'est très fibreux. Donc quand on va ramasser des feuilles de citronnier, on va plutôt essayer de privilégier des assez grosses. On fait sécher, pareil. Soit on les fait sécher dans un déshydrateur, soit sinon on peut carrément les mettre dans un petit sachet à l'abri de la lumière et dans un endroit qui est plutôt sec. Voilà, appartement surchauffé, ça marche très bien. Et ensuite tu mixes tout ça et pareil, ça te fait une super poudre verte, trop fort. Pareil, donc c'est bien de le couper. Avec quoi ? On refait la blague.
De la panure.
De la panure et du sel.
Voilà. Où est-ce que tu trouves du citron caviar ?
Eh bien, écoute, nous, en fait, on travaille souvent avec un jardin partagé qui est génial, qui est à la Pointe Rouge, qui s'appelle le jardin des fadas bucoliques. En gros, c'est une copro. Il y avait un grand espace à côté de chez eux et où il y allait avoir la construction d'un immeuble. Ils n'avaient pas du tout envie que ça arrive parce que c'est vraiment tout près du parc Pastré. Et je sais pas, il y a eu une motive pour créer ce jardin. Ça fait maintenant un bout, hein.
Ouais, ça a commencé avec quelques habitants et ils se sont dit non, vaut mieux faire un jardin de cet espace qui reste parce que sinon il allait être vendu, mais ça allait rapporter rien parce qu'il y a beaucoup de copropriétaires, quoi. Mmh. Et finalement ils se sont décidés à faire le jardin et c'est un peu drôle parce que il y avait beaucoup de gens qui étaient là, mais non, vous n'avez pas demandé la permission, gna 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 gna, et ils ont quand même fait leur jardin. Et en fait, il y a eu le Covid entre les deux. Et ça, ça a convaincu tous les habitants de la copropriété que c'était super d'avoir un jardin en bas de chez soi. Mmh. Et en fait, après ça, ça a basculé. Et du coup, le jardin, il continue. Et franchement, il est très beau. Hein. Maintenant, il est devenu refuge LPO. Dans les copropriétaires, il y avait un paysagiste donc qui a fait toute une réflexion avec eux pour entourer les potagers, pour que, on va dire, ce soit jardiné dans les jardins et autour des jardins. Ce qui fait que maintenant, ça fait juste un grand jardin. Très beau.
Ouais, puis c'est un vrai espace de vie, c'est assez drôle. À chaque fois que tu y vas, nous, on y allait pour cueillir des trucs, tu rencontres tout plein d'habitants en fait de cet endroit-là. Et moi, je trouve que quand même, le coup du sort, c'est que la dernière fois, on a croisé un type et c'est devenu un argument d'achat pour la copro. Genre, il était trop content d'avoir acheté là parce qu'il y avait le jardin partagé. Genre, blague.
Alors, le troisième, ça, c'est à partager justement sur ce plateau. Donc, il y a un fromage qui s'appelle un dodu, ça vient de la laiterie marseillaise. C'est un fromage plutôt type fromage frais, lactique, au lait de vache. Et ça, nous, on l'a recoupé en deux dans la longueur pour pouvoir le farcir au milieu. Du coup, au milieu, on trouve de la vergerette hachée, de la poudre de pomme, et qui a été coupée pour le coup avec autre chose, avec de la myrte ce coup-ci. Et donc là, la myrte, on a utilisé le feuillage. Et pareil, très aromatique. C'est la myrte à grande feuille et pas la myrte à petite feuille, parce que pour le coup, on avait fait des essais de cuisine avec les deux buissons de myrte différents. Et en fait, celui qui est le plus aromatique, c'est quand même le myrte à grande feuille. Okay. Et très bon. La...
Mais qui est hyper replanté à Marseille en ce moment. Ouais. Genre tous les nouveaux parterres municipaux, myrte à grande feuille.
Ouais.
Ah oui.
Ouais. Mais c'est vrai aussi pour le lentisque du début du menu. Genre, par exemple, tout le long de la Joliette, c'est que des lentisques. Dernier plat.
Attendez, c'est quoi la bergerette là, moi,
ah, la bergerette.
Ah, la belle bergerette. La bergerette, tu l'as croisée tout le temps. En gros, c'est un buisson là pour le coup qui est... peut être très très grand.
Ouais, le petit nom latin, c'est Coniza canadensis. Voilà. Non mais si, mais parce que c'est important, non, parce si. Qu'en fait il y a plusieurs sortes et en fait c'est vraiment celui qui suit les humains. C'est vraiment une plante, dès qu'il y a des habitants, il y a forcément une bergerette qui traîne.
Et c'est quoi le petit nom technique?
Le petit nom technique
d'une plante qui suit des habitants?
Ah j'ai oublié, vas-y, oui c'est
une ruderale.
Ruderale, ouais voilà, c'est une plante ruderale.
Une plante ruderale.
Ouais, la plante que tu trouves autant en ville qu'à la campagne, c'est le truc qui va pousser entre le trottoir et le mur.
Bah, le plus compliqué, c'est peut-être d'en trouver une où il n'y a pas de pipi de chien. Ouais. Vois, ça va être ça, le défi.
Ouais, mais c'est de tous les parkings, il y a de la bergerette. Ouais, c'est vraiment le truc par défaut qui pousse.
Et au niveau du goût, au moment où on livrait les restaurants pour pouvoir leur parler de cette plante-là, eux, ils connaissent très bien le chiseau. Perilla, vous voyez cette plante là, souvent le violet là, ouais. C'est un peu fancy. Et ben ce truc là, c'est un goût qui tirait vers le cumin, un truc un peu épicé. Et ben moi je trouve en tout cas qu'avec la bergerette tu vas retrouver ça. Et elle est d'autant meilleure si tu la cuis ou si tu la manges justement séchée et déshydratée. Mmh. Frais comme ça, ça peut être un peu costaud. Et si plus tu vas aller vers une cuisson, je sais pas moi, tu l'intègres. À du riz ou un truc comme ça, la cuisson de ton riz, ça va remplacer super bien le chiseau, quoi.
Complètement sous-estimé la bergerette, alors
que... Ouais, je suis d'accord, sous-estimé.
Alors qu'il y en a vraiment partout et c'est très bon. Le dernier plat, donc voilà, on arrive au dernier. Crème de poireaux champignons sur sa ruine de crouton. Je découvre l'intitulé du menu en même temps, là. Dessus, on a mis un petit disque...
un voile, quoi.
Ouais, un voile, voilà, ça cherche un mot. Un voile de santoline. Et avec une petite poudre violette sur en topping, voilà. Et entre, on a, il manque un ingrédient là sur le menu. Il y a quand même une petite sauce hollandaise, voilà, qui a causé des soucis ce matin. Mais c'est bon, ça y est, elle est maîtrisée maintenant.
Ouais. Ben là, qu'est-ce qu'on peut raconter? Bon, les croutons, ils sont aromatisés avec plein de petites herbes de nos collines. La santoline, elle est pas souvent utilisée en cuisine et pourtant hyper chouette. Tout à l'heure, vite fait, là, on a testé un cocktail aussi où on mettait santoline, citron, sucre et rhum. C'était super.
Du coup, infusion de santoline?
Ouais, ouais. Infusion. Oui, à manger tel quel, non.
Non. Mais par exemple, si tu veux te donner une idée de quel va être le goût de ton infusion, tu la frottes sur tes doigts et tu sens et ça va te donner une super bonne idée. Ce que ça peut faire.
Ouais, la santoline, c'est un petit buisson un peu bleu. Bah c'est ça, moi je trouve l'exemple que j'ai, moi c'est dans le nord-ouest de la France, tous les jardins des papy-mamies, là où t'as une allée centrale, souvent c'était bordé à défaut de buis, on va dire, c'était des santolines qui étaient taillées en petites murettes.
Voilà. Ouais, alors que moi ma ref, c'est plutôt très ras du sol, par terres municipaux.
Ah ouais.
Je n'ai pas vu dans les jardins des
gens. Ouais, parce que bon, c'est chez les papy-mamies, mais c'est...
Voilà. Dans le Var... ça pousse pas bien, alors on dirait.
Bah peut-être.
Non, peut-être. Ça va pas bien, ouais.
Peut-être. Et qu'est-ce
qu'on peut raconter d'autre? Bah celle-là, elle est très très belle. Moi, je trouve de petites planchettes là. La crème de poireau champi. Mais en gros, en fait, là, on a vraiment fait un menu sur les poudres. Donc à chaque petite chose, on vient. Là, toute la petite équipe et on vient remettre des poudres sur les plats des gens. Donc ça fait un peu comme une petite danse. Voilà. Et tout ça est quand même servi avec un mesclun sauvage. Donc là, ça a été full cueillette de plantes fraîches. Donc celles-là, on ne les transforme pas du tout.
Tu peux me dire un peu...
ce qu'il y avait dans le mesclun? Ouais, il y a... Alors, t'as la fausse roquette, voilà, qui est une moutarde sauvage, qui fleurit blanc. Ça, c'est assez piquant, c'est bien relevé. Ça a un goût, moi, je trouve assez frais, qui rappelle le wasabi. Après, pour adoucir justement cette moutarde, parce que si on mettait que ça, ce serait beaucoup trop fort. En gros, on va venir ajouter des feuilles de coquelicot et du mouron des oiseaux. Parce que ça, c'est très doux, c'est assez minéral, mais par contre, ça a des super croquants. Enfin, ça a des textures qui sont chouettes. Et la dernière, c'est quoi qu'on a mis d'autre ?
On a mis du fenouil, on a mis de l'achillée.
Ouais, achillée millefeuille. Pareil aussi, on va retrouver sur le plateau, ça on les a mis à part parce qu'elles étaient vraiment minuscules. Hier on a trouvé des petites feuilles de cardamome hirsute là, donc c'est une sorte de petit cresson mais de terre quoi, qui pousse vraiment dans des petits recoins. Et c'est ça, un goût hyper puissant alors que c'est minuscule et c'est très très beau, c'est très graphique, c'est très découpé. Et qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? Bah c'est ça, on a remis un peu de vergerette. Et en fait, et souvent, on mixe aussi le mesclun. Si on trouve qu'on a fait un mesclun avec des plantes... Là, il n'y a pas de plantes amères, mais ça peut arriver dans les salades sauvages. Et dans ces cas-là, et bah là, on vient couper. Et là, en gros, dans ces cas-là, on remélange avec une laitue d'un maraîcher ou des choses comme ça. Et ce qui fait que... Et en fait, c'est pas mal parce que ça fait aussi... Enfin, je trouve que ça fait des textures différentes, des goûts différents et des couleurs différentes et des formes différentes. Enfin, c'est très beau. Enfin, c'est hyper appétissant.
On l'aime bien, notre mesclun.
Ouais.
Surtout au mois de janvier, il est pas facile à faire.
Non.
Parce qu'il y a vraiment d'autres saisons où on va aller plus juste cueillir et presque poser les plantes ou les intégrer en les hachant, mais des choses simples. Mais en ce moment, elles ont quand même pas super belle gueule.
Ouais.
Donc, une fois de plus, la poudre, c'est pas mal. Ou les infusions. Ouais. Et après, il y a le dessert, quand même.
Ah oui.
Ouais.
Tiramisu de géranium et agrumes, limoncello, atelier page blanche. Alors, l'atelier page blanche, on va commencer par ça. Effectivement, joli intitulé. C'est parce que toutes ces petites poudres, jusqu'à maintenant, c'est nous qui arrivions et qui faisons cette petite danse, on mettait des petites poudres, etc. Et pour le dessert, là, on propose aux gens de eux-mêmes customiser le tiramisu. Donc ils arrivent, ils choisissent leur poudre.
Ouais.
Voilà, donc un peu comme vous avez fait hier, ils goûtent tous un peu dans le creux de leur main et après ils viennent un peu ambiance comme cette fête en Inde là, où on voit que ça balance des couleurs, et ben c'est ça le but. Alors, premier test, là, les gens ils sont un peu encore timides, on va voir ce soir, ils sont un peu plus excités, mais ce midi c'était un peu timide. À savoir, dans le tiramisu, qu'est-ce qu'on peut vous raconter ? Ben, le géranium, c'est le géranium rosa. Donc celui-là, on l'a trouvé en bas de chez toi.
Ouais, voilà. Géranium rosa, super. Donc qui a vraiment un gros parfum de rose quand on froisse le feuillage, là. Plante ultra résistante. Enfin, c'est ça, nous, on en bouture plein et on en remet plein dans l'espace public. Parce que, c'est marrant parce que c'est une plante qui est connue, méconnue, donc qui n'a pas la cote. Mais en bas de chez moi, on en a remis sur la place. Et en fait, remarquable, tous les gens qui connaissent, maintenant, ils font un détour. Ils vont frotter leurs mains au géranium et après, ils continuent.
Ça évoque quelque chose, quand même.
Ah, complètement. Bah, tous les gens qui, par exemple, qui ont grandi au Maghreb, c'est une plante qu'ils reconnaissent sans problème, quoi.
Bah après, c'est vrai que moi, je l'avais rencontré en cuisine la première fois à La Réunion parce qu'ils font une brioche, aromatisée au géranium. J'avais trouvé ça super cool.
Ouais, délicieux. Ouais.
Non, donc là, c'était un peu reprendre cette idée-là, mais l'intégrer au géranium, enfin au tiramisu.
Ouais.
Et du coup, vous faites une infusion aussi.
Ouais, là, on a fait une infusion. Et on avait demandé à La Réunion, eux, ils infusaient le sucre, comme on fait un sucre vanillé en mettant une gousse dans son pot de sucre. Et bah, eux, en fait, ils mettaient des feuilles de géranium dans le sucre et ça parfumait le sucre.
Oh.
Ouais.
Voilà. Et après, il y a un cocktail avec tout ça. Le cocktail, c'est une infusion de sumac. Du coup, sumac, pareil, petit buisson des calanques. Ça a été juste mis dans l'eau qui boue et oublié pendant une partie de la journée. Et ensuite, tu viens récupérer ça. Et nous, on a fait un petit sirop, là, gingembre, curcuma, qui est bien jaune. Et pour tour du verre, on remet cette petite poudre de sumac qui a été coupée avec du sucre glace cette fois. Et tac. Et après, c'est un petit cocktail avec du rhum et c'est très bien. Voilà. Donc ça, c'est le menu proposé cette fois-ci.
Ouais, menu de janvier. Et c'est ça, voilà.
Enfin, il change à chaque fois.
Ouais.
L'idée, c'est d'expérimenter des trucs. Et par exemple, la fois d'avant, on a utilisé la caroube. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un arbre, pareil. Bah, ça, il y en a pas mal, du coup, plutôt vers Château-Gombert. Normalement, on récupère les grandes gousses. On les fait griller au four très très longtemps, mais pour qu'elles carbonisent. Là, après, tu mixes le tout. Et ça te fait une poudre qui va vraiment avoir des côtés hyper torréfiés qui pourraient rappeler le chocolat ou le café.
Ouais,
ça, on en trouve en magasin bio maintenant.
Ça fait comme un ersatz de cacao hyper efficace, mais très bon. Enfin, c'est ça, il y a un truc où ça fait direct goût du chocolat chaud, quoi.
Ouais, rajoute un petit
peu. Léo, ouais.
C'est Léo qui a accueilli, par exemple, avec moi, le géranium rosa à moto. Ouais. Donc tu t'arrêtes devant le buisson à moto, t'enlèves pas ton casque, juste comme ça, hop, et puis c'est reparti.
Ah oui, tu mets même pas le pied par terre, quoi.
Bah non.
Ouais. Non, et puis c'est Léo aussi qui a fait toute la conception du menu, justement en se disant, là on voulait utiliser des poudres, donc du coup il faut faire des supports à poudre. Donc vas-y, raconte quoi.
Non, c'était ok. Non mais moi j'ai, en vrai elles ont très bien expliqué tout le menu. moi je suis arrivé un peu après toute leur histoire du début des assos, de l'assaut, et je suis arrivé juste au moment où on a commencé à faire des dîners Bigwood. Et voilà, le but c'était vraiment d'intégrer toutes les plantes sauvages que moi je connaissais pas du tout au départ. Donc elles ont déjà dû me former pas mal en fait. J'ai fait pas mal de cueillettes avec elles. Et le but c'était de trouver un peu des moyens d'intégrer ces plantes dans des menus où c'est pas juste de la déco, où vraiment les plantes font sens, où il y a des associations de saveurs qui sont intéressantes. Et donc voilà, bah, c'est un peu ça le menu en fait. Je le fais pas non pas tout seul en fait. C'est vraiment à des allers-retours entre nous trois, quoi, où on essaye de voir si ces saveurs-là vont être intéressantes à ce moment-là ou pas. Voilà.
T'es aperçu, je pense, comme nous, parce que t'as travaillé dans certains restaurants où, en fait, la plupart des plantes sauvages, quand elles sont mises dans les assiettes, elles sont mises ce qu'on appelle en topping, donc juste par-dessus. Et en fait, les fleurs ou les plantes, les gens, ils les mettent sur les côtés. C'est ça qui nous a quand même hyper motivés à essayer de faire de la cuisine à notre tour. Parce qu'en fait, c'est très frustrant quand tu cueilles des plantes, ensuite que tu les livres, que tu les fais choisir à des restaurants, de voir qu'au final, la plupart des gens les mettent sur les côtés et que ça finit à la poubelle. Et en fait, ça, moi, j'avais plus trop envie de le vivre. Et Camille, qui livrait moins que moi, je pense qu'elle l'a pas vu aussi vite. Mais quand on en parlait, c'était un truc qui nous frustrait de fou, quoi. Enfin, c'est un travail dingue, c'est une recherche quand même longue, quoi. Et je pense que c'est juste pas bien amené. C'est pas grave, c'est juste souvent un problème de temps aussi. C'est que dans la plupart des restaurants, en fait, tout est ultra timé et il y a vraiment peu de rencontres finalement entre la personne qui sert et les gens qui sont servis. Mmh. Et du coup, c'est vrai que cette plante-là, elle est un peu mise de côté. Elle est souvent même pas écrite sur le menu. Même dans des émissions grand public, hein, Top Chef, ben on voit des pousses, on voit des plantes,
ouais.
Mais ils n'en parlent pas.
Non, ils citent jamais ce qu'ils mettent par-dessus, par exemple. Donc, alors que c'est des choses qu'on du coup... Enfin, nous, par exemple, ce qui nous intéressait, c'était de cueillir des plantes, genre la fleur de bégonia, elle a un goût puissant, elle a un goût de groseille, quoi. Et du coup, c'est pas anodin de venir mettre une fleur de bégonia, c'est pas juste joli, quoi, ça va rajouter une acidité. Et il y en a plein des exemples comme ça. Et en fait, ce qui se passait aussi, c'est que finalement, nous, on s'adressait beaucoup aux chefs, mais en fait, il n'y avait pas le chemin qui était fait avec les gens qui faisaient le service. Et du coup, les serveurs, ils étaient un peu bourdous, ils savaient pas trop ce que c'était, quoi. Ouais, voilà, non, mais c'est pas grave, hein, c'est de la pédagogie de longue haleine, quoi, et ça va venir, quoi. Et après, moi, je trouve que ça vient de plus en plus, en quelques années, ça, c'est bon, là, ça a la cote et ça intéresse les gens, quoi.
Et là aussi, vous faites le service dans les festins, du coup.
Ouais. Ouais, tout le monde s'y met, là.
Ouais, là, on fait tout, là.
Et c'est venu comment, cette idée de fabrication de festin, là, parce que c'est la troisième édition, là.
Alors, c'est parce que, quand même, à la base, dans l'assaut, on a toujours fait des fêtes. On livrait les restaurants, oui. Mais en fait, cette activité qui était, on va dire, l'activité commerciale de l'association, elle nous permettait d'entretenir des jardins en ville, d'accueillir des gens un peu de tout public et de faire ces fêtes-là. Où on faisait quand même des grands banquets et tout et tout. Après, on a souvent travaillé avec une compagnie de théâtre qui s'appelle la Rara Oulib. Donc, il y avait quand même ce truc de cuisine qui nous taraudait depuis un moment. Et puis là, c'est vrai que quand même, le déclencheur, ça a été que Léo rentre dans le projet. Et ça nous a permis, du coup, cette petite frustration-là qui était de ne pas pouvoir emmener les plantes à certains endroits. Par exemple, moi, j'adore le lentisque. J'ai jamais réussi à vendre du lentisque. J'avais quand même une envie que ce lentisque existe en cuisine. Et ben là, maintenant, c'est possible. C'est un peu multifactoriel le fait qu'on fasse des festins maintenant. Mais voilà, ça répond à un truc qui nous amuse aussi, je pense.
Ouais, complètement. Aussi, c'est chouette. Enfin, je sais pas, c'est...
Ça te fait rencontrer aussi des nouvelles personnes. Tu vois, parce que bon, il y a l'aspect jardin. Je pense qu'il y a eu tout un petit microcosme de personnes qui étaient intéressées par le fait de jardiner. Là, le fait de cuisiner, c'est encore un autre public. Ouais, puis le fait de mettre en branle, de faire tout un festin et tout, bah en fait ça demande plein de monde, donc en fait on va faire rentrer plein d'autres gens, il y en a qui viennent cueillir avec nous, bah vous êtes venus cuisiner avec nous, et pareil après il y en a qui viennent pendant le service, enfin ouais, il y aura merci d'avoir été là ce midi par exemple, ouais. Et non mais c'est bien, au moins ça, enfin, ça en fait ça brasse plein de gens, et c'est ça qui est chouette aussi quoi, ça fait un... Ouais, ça fait plein de rencontres et...
Ouais, Pierrick.
La compagnie, la compagnie. Viens, Pierrick, viens à ma place.
Comment tu participes à l'édifice, toi?
De Bigoud?
Ouais.
On s'est rencontrés il y a 7 ou 8 ans avec Caroline et Camille. Et nous, on organise des grandes fêtes. Et la dimension cuisine est très souvent... appelé à la rescousse, c'est des défis, souvent, parce qu'il s'agit de nourrir une foule. Donc là, on est plus sur... le premier truc qu'on a fait avec Bigoud, on a fait 3000 assiettes, avec 8 recettes différentes, 8 manières de raconter Marseille avec une sardine. Bigoud est venu avec un samosa aux fleurs. Et puis beaucoup de projets participatifs où donc on va accompagner des cuisiniers amateurs dans des recettes qu'ils connaissent bien, mais pour des quantités astronomiques pour eux. Donc là, les cuisiniers qui sont invités sont invités à plusieurs endroits, c'est-à-dire qu'il faut et offrir un cadre hygiène, sécurité pour que la recette soit réalisée avec plein de gens, c'est animer, c'est-à-dire accompagner les gens pour qu'ils puissent aussi ouvrir la cuisine, pour que d'un coup, y ait 30 personnes qui viennent d'un coup dans la cuisine et puis on ait pensé leur recette pour que d'un coup, quand ces 30 personnes arrivent, on peut les asseoir à table et les faire travailler. Et aussi souvent, pimper la recette. C'est-à-dire qu'ils sont, ils n'ont pas forcément une approche un peu restaurant où ils ont pas forcément l'idée de comment rendre leur assiette magnifique. Donc la porte d'entrée au moment où on s'est rencontrés, c'était un peu ce dont Bigoud en a marre au bout d'un moment, c'est que les fleurs viennent comme pour te faire exploser visuellement une recette quoi, parce que c'est le cas, en fait. Tu peux vraiment rendre un truc magnifique. Tu peux rendre un 9 mimosa, mais tu as l'impression qu'on te sert un truc de fou et c'est un 9 mimosa. Ça nous arrive régulièrement d'être 30 en cuisine. Du coup, le dressage, c'est génial de pouvoir occuper tout le monde. Tu donnes un petit tupperware avec des petites fleurs, puis ils vont tous piquer une petite fleur dans les 300 assiettes qu'il y a. Et puis, il y en a une qui passe derrière, qui pique une petite branche. Et le truc prend peu à peu... Puis il y a beaucoup d'échanges aussi, parce que ce sont des plantes méditerranéennes, du coup tous les gens qui viennent de cultures méditerranéennes vont reconnaître telle ou telle plante qui appartiennent à leur terroir de naissance et faire des connexions aussi.
Vous êtes toujours sur Dicotylé d'onde et on boucle la boucle de cet épisode sur l'ethnobotanique collective et la lavande avec une chanson, Les Lavandières de Balapat. Portez-vous bien et au mois prochain.
Nous sommes encore 10 lavandières, toutes les 10 à la rivière.
Nous sommes encore 10 lavandières, toutes les 10 à la rivière.
Toutes les 10 que nous faisons, et tape, 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 tape.
Toutes les 10 que nous faisons, et tape, 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 donc.
Nous sommes encore 8 lavandières, toutes les 8 à la rivière.
Nous sommes encore 8 lavandières, toutes les 8 à la rivière.
Toutes les 8 que nous faisons, et frotte, frotte. Frotte, frotte, frotte.
Toutes les 8 que nous faisons, et frotte, frotte, frotte donc.
Nous sommes encore 6 lavandières, toutes les 6 à la rivière.
Nous sommes encore 6 lavandières, toutes les 6 à la rivière.
Toutes les 6 que nous faisons, et batte, 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 batte.
Toutes les 6 que nous faisons, et batte, batte, batte donc.
Nous sommes encore 4 lavandières, toutes les 4 à la rivière.
Nous sommes encore 4 lavandières. Vendière, toutes les quatre à la rivière.
Toutes les quatre que nous faisons, et torde, 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 torde.
Toutes les quatre que nous faisons, et torde, 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 donc.
Nous sommes encore de la Vendière, toutes les deux à la rivière.
Nous sommes encore de la Vendière, toutes les deux à la rivière.
Toutes les deux que nous faisons, et sèche, 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 sèche.
Toutes les deux que nous faisons, et sèche, 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 donc.
Dicotylédon d'onde, une émission d'ethno-botanique fabriquée par Clémence, Nina et leurs complices.
Dernière chose à dire, qui permet de reconnaître les dicotylédones. Les dicotylédones, elles ont des nervures qui sont ramifiées. Les fleurs, on les verra une prochaine fois parce qu'on n'a pas de fleurs pour le moment sur le framboisier.
Tous les quatrièmes mardis du mois, de 15h à 16h, sur Radio Galère 88.4.